Donc, en principe, le bouchon de cristal se trouverait encore dans le bureau de Dobrek. S'il s'y trouvait avant la disparition de Dobrek, il doit se trouver encore dans ce bureau. Et sur la table de travail? Sur la table de travail? Pourquoi dites-vous cela?
Parce que je le sais,
dit Lupin, qui n'avait pas oublié la phrase de Sébastiani.
Mais vous ne connaissez pas l'objet où le bouchon est dissimulé?
Non. Mais une table de travail, c'est un espace restreint. En 20 minutes, on l'explore. En 10 minutes, s'il le faut, on la démolit. La conversation avait un peu fatigué Arsène Lupin. Comme il ne voulait commettre aucune imprudence, il dit à Clarisse
« Écoutez, je vous demande encore 2 ou 3 jours. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 4 mars. Après-demain, mercredi, jeudi ou plus tard, je serai sur pied. Et soyez certaine que nous réussirons.
D'ici là,
retournez à Paris. Installez-vous avec Grognard et le Balu à l'hôtel Franklin, près du Trocadéro, et surveillez la maison de Dobrek. Vous y avez vos entrées libres. Stimulez le zèle des agents.
Si Dobrek revient...
S'il revient, tant mieux, nous le tenons.
Et s'il ne fait que passer?
En ce cas, Grognard et le Balu doivent le suivre.
Et s'il perd de sa trace?
Lupin ne répondit pas. Nul ne sentait plus que lui tout ce qu'il y avait de funeste à demeurer inactif dans une chambre d'hôtel, et combien sa présence eût été utile sur le champ de bataille. Peut-être même cette idée confuse avait-elle prolongé son mal au-delà des limites ordinaires.
« Allez-vous-en, je vous en supplie. »
Il y avait entre eux une gêne qui croissait avec l'approche du jour épouvantable. Injuste, oubliant ou voulant oublier que c'était elle qui avait lancé son fils dans l'aventure d'Anguin, Madame Mergy n'oubliait pas que la justice poursuivait Gilbert avec tant de rigueur, non pas tant comme criminel que comme complice de Lupin. Et puis, malgré tous ses efforts, malgré les prodiges de son énergie, à quel résultat, en fin de compte, Lupin avait-il abouti? En quoi son intervention avait-elle profité à Gilbert? Après un silence, elle se leva et le laissa seul. Le lendemain, il fut assez faible. Mais le surlendemain, qui était le mercredi, comme son docteur exigeait qu'il restât encore jusqu'à la fin de la semaine, il répondit
« Sinon, qu'ai-je à craindre ?»«
Que la fièvre ne revienne. »«
Pas davantage ?»«
Non, la blessure est suffisamment cicatrisée. »«
Alors advienne que pourra. Je monte avec vous dans votre auto. À midi, nous sommes à Paris. »
Ce qui déterminait Lupin à partir sur le champ, c'était d'abord une lettre de Clarisse, ainsi conçue. « J'ai retrouvé les traces de Dobrek. » Et c'était aussi la lecture d'un télégramme publié par les journaux d'Amiens. Télégramme annonçant l'arrestation du marquis d'Albufex, compromis dans l'affaire du canal. Dobrek se vengeait. Or, si Dobrek pouvait se venger, c'est que le marquis n'avait pu, lui, prévenir cette vengeance en prenant le document qui se trouvait sur la table même du bureau. C'est que les agents et l'inspecteur principal Blanchon, établi par Praville dans l'hôtel du square Lamartine, avaient fait bonne garde. Bref, c'est que le bouchon de cristal était encore là. Il y était encore, et cela prouvait ou bien que Dobrek n'osait pas rentrer chez lui, ou bien que son état de santé l'en empêchait, ou bien encore qu'il avait assez de confiance dans la cachette pour ne pas prendre la peine de se déranger. En tout cas, il n'y avait aucun doute sur la conduite à suivre. Il fallait agir, et agir au plus vite. Il fallait devancer Dobrek et s'emparer du bouchon de cristal. Aussitôt le bois de Boulogne franchi, et l'automobile parvenue aux environs du square Lamartine, Lupin dit adieu au docteur et se fit arrêter.
Grognard et le Balu, à qui il avait donné rendez-vous, le rejoignirent.
« Et Madame Mergy ?»«
Elle n'est pas rentrée depuis hier. Nous savons par un pneumatique qu'elle a vu Daubrecq sortant de chez ses cousines et montant en voiture. Elle a le numéro de la voiture et doit nous tenir au courant de ses recherches. »«
Et depuis ?»«
Depuis, rien. »«
Pas d'autres nouvelles ?»«
Si, dans le Paris Midi. » Cette nuit, dans sa cellule de la santé, d'Albufex s'est ouvert les veines avec un éclat de verre. Il laisse, paraît-il, une longue lettre. Lettre d'aveu et d'accusation en même temps, avouant sa faute mais accusant Daubrecq de sa mort et exposant le rôle joué par Daubrecq dans l'affaire du canal.
Et c'est tout ?
Ah non, le même journal annonce que, selon toute vraisemblance, la commission des grâces, après examen du dossier, a rejeté la grâce de Vaucheray et de Gilbert, et que vendredi, probablement, le président de la République recevra leurs avocats.
Lupin eut un frisson.
Ça ne traîne pas. On voit que Daubrecq a donné dès le premier jour une impulsion vigoureuse à la vieille machine judiciaire. Une petite semaine encore, et le couperet tombe. Ah, mon pauvre Gilbert, si après-demain le dossier que ton avocat apportera au président de la République ne contient pas l'offre inconditionnelle de la liste des 27. Mon pauvre Gilbert, tu es bien fichu.
Voyons, voyons, patron, c'est vous qui perdez courage.
Moi ? Quelle bêtise ! Dans une heure, j'aurai le bouchon de cristal. Dans deux heures, je verrai l'avocat de Gilbert, et le cauchemar sera fini.
Oh, bravo, patron. On vous retrouve. Nous vous attendons ici.
Non. Retournez à votre hôtel. Je vous rejoins.
Ils se quittèrent. Lupin marcha droit vers la grille de l'hôtel et sonna. Un agent lui ouvrit, qu'il reconnut.
Monsieur Nicole, n'est-ce pas ?
Oui, c'est moi. L'inspecteur principal Blanchon est là ?
Il est là.
Et puis-je lui parler ?
On le conduisit dans le bureau où l'inspecteur principal Blanchon l'accueillit avec un empressement visible.
« Monsieur Nicole, j'ai ordre de me mettre à votre entière disposition, et je suis même fort heureux de vous voir aujourd'hui. »«
Et pourquoi donc, monsieur l'inspecteur principal ?»«
Parce qu'il y a du nouveau. »«
Quelque chose de grave ?»«
Très grave. »«
Vite, parlez. »«
Daubrecq est revenu. »«
Hein ? Quoi ? Daubrecq est revenu ? Il est là ?»
Non, il est reparti.
Et il est entré ici, dans ce bureau ?
Oui.
Quand ?
Ce matin.
Et vous ne l'avez pas empêché ?
De quel droit ?
Et vous l'avez laissé seul ?
Sur son ordre absolu, oui, nous l'avons laissé seul.
Lupin se sentit pâlir. Daubrecq était revenu chercher le bouchon de cristal. Il garda le silence assez longtemps, et il répétait en lui-même : Il est revenu le chercher. Il a eu peur qu'on ne le trouvât et il l'a repris. Oh, parbleu, c'était inévitable. D'Albufex arrêté, d'Albufex accusé et accusant, il fallait bien que Daubrecq se défendît. La partie est rude pour lui. Après des mois et des mois de mystère, le public apprend enfin que l'être infernal qui a combiné tout le drame des 27 et qui déshonore et qui tue, c'est lui, Daubrecq. Que deviendrait-il si, par miracle, son talisman ne le protégeait plus ? Il l'a repris. Il dit d'une voix qu'il tâchait d'assurer. Il est resté longtemps ?
20 secondes, peut-être.
Comment ? 20 secondes ? Pas davantage ?
Pas davantage !
Quelle heure était-il ?
10 heures.
Pouvait-il connaître alors le suicide du marquis d'Albufex ?
Oui, j'ai vu dans sa poche l'édition spéciale que le Paris Midi a publiée à ce propos.
Ah, c'est bien cela, c'est bien cela. Monsieur Prasville, ne vous avez pas donné d'instructions spéciales concernant le retour possible de Daubrecq ?
Non. Aussi, en l'absence de monsieur Prasville, j'ai téléphoné à la préfecture et j'attends. La disparition du député Daubrecq a fait, vous le savez, beaucoup de bruit. Et notre présence ici est admissible aux yeux du public, tant que dure cette disparition. Mais puisque Daubrecq est revenu, puisque nous avons la preuve qu'il n'est ni séquestré ni mort, pouvons-nous rester dans cette maison ?
Qu'importe. Qu'importe que la maison soit gardée ou non. Dobrek est venu, donc le bouchon de cristal n'est plus là.
Il n'avait pas achevé cette phrase qu'une question s'imposa naturellement à son esprit. Si le bouchon de cristal n'était plus là, cela ne pouvait-il se voir à un signe matériel quelconque ? L'enlèvement de cet objet, contenu sans aucun doute dans un autre objet, avait-il laissé une trace, un vide ? La constatation était aisée. Il s'agissait tout simplement d'examiner la table, puisque Lupin savait, par les plaisanteries de Sébastiani, que c'était là l'endroit de la cachette. Et cette cachette ne pouvait être compliquée, puisque Dobrek n'était pas resté dans son bureau plus de 20 secondes, le temps, pour ainsi dire, d'entrer et de sortir. Lupin regarda. Et ce fut immédiat. Sa mémoire avait enregistré si fidèlement l'image de la table avec la totalité des objets posés sur elle que l'absence de l'un d'entre eux le frappa instantanément, comme si cet objet, et celui-là seul, eût été le signe caractéristique qui distingua cette table de toutes les autres tables.
« Oh, tout concorde, tout, et jusqu'à ce commencement de mots que la torture arrachait à Dobrek dans la tour de Mortepierre. L'énigme est déchiffrée. Cette fois, il n'y a plus d'hésitation possible, plus de tâtonnement. Nous touchons au but. »
Et, sans répondre aux interrogations de l'inspecteur, il songeait à la simplicité de la cachette. Et il se rappelait la merveilleuse histoire d'Edgar Poe, où la lettre volée et recherchée si avidement est en quelque sorte offerte aux yeux de tous. On ne soupçonne pas ce qui ne semble point se dissimuler.
« Allons !» dit Lupin en sortant, très surexcité par sa découverte. « Il est écrit que dans cette sacrée aventure, je me heurterai jusqu'à la fin aux pires déceptions. Tout ce que je bâtis s'écroule aussitôt. Toute conquête s'achève en désastre. »
Cependant, il ne se laissait pas abattre. D'une part, il connaissait la façon dont le député Dobrek cachait le bouchon de cristal. D'autre part, il fallait savoir, par Clarisse Mergy, la retraite même de Dobrek. Le reste, dès lors, ne serait plus qu'un enfantillage pour lui. Grognard et le Balu l'attendaient dans le salon de l'hôtel Franklin, petit hôtel de famille situé près du Trocadéro. Madame Mergy ne leur avait pas encore écrit.
« Bah, j'ai confiance en elle. Elle ne lâchera pas Dobrek avant d'avoir une certitude. »
Cependant, à la fin de l'après-midi, il commença à perdre patience et à s'inquiéter.
Il livrait une de ces batailles, la dernière, espérait-il, où le moindre retard risquait de tout compromettre. Que Dobrek dépista Madame Mergy, comment le rattraper ? On ne disposait plus, pour réparer les fautes commises, de semaines ou de jours, mais plutôt de quelques heures, d'un nombre d'heures effroyablement restreint.
Apercevant le patron de l'hôtel, il l'interpella.
« Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de pneumatique au nom de mes deux amis ?»«
Absolument sûr, monsieur. »«
Et à mon nom, au nom de monsieur Nicole ?»«
Pas davantage. »«
C'est curieux. » Nous comptions avoir des nouvelles de Madame Audran. C'était le nom sous lequel Clarisse était descendue.
« Mais cette dame est venue. »«
Et vous dites ?»«
Elle est venue tantôt. Et comme ces messieurs n'étaient pas là, elle a laissé une lettre dans sa chambre. Le domestique ne vous en a pas parlé. »
En hâte, Lupin et ses amis montèrent. Il y avait en effet une lettre sur la table.
« Tiens, elle est décachetée. » Comment se fait-il ? Eh bien, pourquoi ces coups de ciseaux ?
La lettre contenait ces lignes.
Dobrek a passé la semaine à l'hôtel central. Ce matin, il a fait porter ses bagages à la gare de... Il manque un mot.
Et il a téléphoné qu'on lui réserve une place de sleeping car pour... Ah, il manque encore un mot. Je ne sais pas l'heure du train, mais je serai tout l'après-midi à la gare. Venez tous les trois aussitôt que possible. On préparera l'enlèvement.
Eh bien quoi ?
Dit le balu.
À quelle gare ? Et pour quel endroit le sleeping ? Elle a coupé juste l'emplacement des mots.
Mais ouais, fit Grognard. Deux coups de ciseaux à chaque place, et les seuls mots utiles ont sauté. Elle est raide, celle-là. Madame Mergy a donc perdu la tête.